On verra une application, bien évidemment. Alors, j'ai un tout petit problème avec l'ordinateur. Je vais essayer de résoudre ça. Mais on peut quand même commencer. Alors, il faut que j'installe ça, si j'ai bien compris. Voilà. Voilà, bonjour à tous. Très heureux d'être de nouveau avec vous. Et je vous apporte les salutations de l'Église évangélique libre d'Aix-en-Provence. Alors, j'en ai été le pasteur pendant un certain nombre d'années et je ne suis plus pasteur de cette Église depuis maintenant 2 ans, mais à la retraite seulement depuis un mois. voilà. Et j'ai prêché tous les dimanches ou vais prêcher tous les dimanches de ce mois d'août. Donc, la retraite, voilà. Bon, je crois que ça ne marche pas. On va faire sans. C'est pas grave. Je vais me débrouiller comme ça. Est-ce que on peut passer les diapos tout de même. Voilà l'histoire qui arrive. Très bien. Alors, je vais justement commencer par raconter une histoire. Alors, j'ai dit aux enfants, encore une fois, je pense que les grands peuvent aussi l'écouter très attentivement. Cette histoire, elle est tirée d'un album du Père Castor. Vous connaissez sans doute, hein, et s'intitule Le beau chardon d'Ali Boron. C'est l'histoire d'un petit âne, un petit âne gris, nommé Ali Boron, et ce petit âne gris, il n'aime pas les vacances. Ça, c'est pas courant. Tout simplement parce qu'il ne peut pas prendre le train avec ses maîtres pour voyager avec eux, et il reste tout seul dans son pré, et dans son pré, eh bien, il s'ennuie. C'est pourtant un très beau pré, avec une belle herbe fraîche et des pommiers qui donnent de l'ombre. Et en fait, c'est très agréable de rester dans cette prairie, même si elle est entourée d'une haie de barbelés. Mais un jour, dans le pré du voisin, qui est plein de ronces et mal entretenu, Ali Boron voit un beau chardon. Un beau chardon qui lui paraît appétissant. Un oiseau, un chardonneret, est posé sur le chardon et il commence déjà à en picorer les graines. C'est son plat préféré. L'âne se décide alors à passer sous la barrière de barbelés, quitte à se blesser parce qu'il veut à tout prix manger ce beau chardon. Mais une fois dans le champ, il découvre qu'il y a de nombreux chardons. Ils sont même tellement nombreux qu'il ne sait pas lequel choisir, d'autant qu'il trouve chaque fois un défaut à celui qu'il s'apprête à manger. De l'autre côté du pré, il aperçoit alors un bois, et il se dit que derrière ce bois, il trouvera peut-être un autre champ avec de meilleurs chardons. Mais il arrive dans une ferme, et devant cette ferme, il y a des enfants qui jouent dans la cour. Alors, il passe discrètement pour ne pas attirer leur attention. Puis, il traverse un champ de betteraves. Alors, il pourrait en manger une ou deux, mais il ne veut que des chardons, rien que des chardons. Et voilà que dans un autre champ, il y a un épouvantail effrayant. Plus loin, il voit une bergère avec ses moutons, mais il a peur du chien, le chien qui garde le troupeau. Alors, il s'enfuit bien vite et il aperçoit ensuite un bel enclos, un pré bien vert, entouré d'une haie de barbelés. Il n'a toujours rien mangé, le pauvre petit âne gris. Il a faim, il a très chaud. Alors il se dit que cette belle herbe verte, bien verte, serait une bonne nourriture, une très bonne nourriture, et qu'il pourrait aussi se réfugier à l'ombre de ses pommiers. Perché sur un pieu de la clôture, alors je l'ai un petit peu agrandi, hein, l'oiseau, un petit chardonneret l'encourage à entrer dans cette belle prairie. Et l'âne passe de nouveau sous les barbelés en se blessant une nouvelle fois. Mais il est ensuite tout heureux de se rouler dans l'herbe fraîche. Et lorsqu'il arrive à l'autre extrémité du pré, il voit soudain de l'autre côté de la barrière un beau chardon. Et il réalise alors qu'il est tout simplement revenu dans son pré. Alors c'est l'auteur qui écrit, voyez ici par quel détour Ali Boron, tournant en rond, fit ce beau tour. Il est revenu au point de départ. Mais il a toujours envie du chardon. Il a toujours envie du chardon, mais il se souvient de tout ce qu'il a vécu et il n'est plus du tout prêt à passer une nouvelle fois sous les barbelés. Il se souvient trop bien que cela lui a fait très mal et cette fois, il refuse d'écouter la voix du petit chardonneret qui l'incite encore à franchir la barrière pour aller manger le beau chardon. L'âne Ali Boron passe ensuite tout le temps des vacances, heureux dans son bon pré d'herbes fraîches et à l'ombre des pommiers. Alors, je vais laisser les enfants sortir, mais juste pour terminer et faire le lien, c'est pas très difficile, hein, d'ailleurs, de faire le lien entre cette histoire pour les enfants et le récit de la traversée du désert par le peuple d'Israël, au moins sur certains points. Alors, si les enfants, je sais pas s'ils veulent sortir ou rester, ce qui était prévu, mais l'histoire s'arrête là, en tout cas. Maintenant, je vais commenter. Alors, il y a des hésitations, non? Ils ont tellement aimé l'histoire. Mais l'histoire est finie, là. Maintenant, ça va être vraiment pour les grands. Alors, faisons le lien, justement. On se souvient que le peuple de Dieu se rendait vers un bon pays plein de ressources, un beau pré d'herbes fraîches, où il fait bon vivre. Et je lis dans le livre du Deutéronome au chapitre 8, Le Seigneur, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays. Il sera arrosé par des torrents et par l'eau de nombreuses sources qui jaillissent des profondeurs dans la plaine ou dans la montagne. C'est un pays où poussent le blé et l'orge, la vigne, le figuier, le grenadier, un pays qui abonde en huile d'olive et en miel. C'est la Provence, hein? Ça ressemble. Mais ces hommes et ces femmes conduits par Moïse ont suivi un autre Dieu que le seul vrai Dieu qui les avait fait sortir d'Égypte. Vous vous souvenez, ils se sont écartés du bon chemin, ils ont adoré un veau en or et ils se sont livrés à la débauche. Et plus tard, ils se sont plaints. Ils se sont plaints un peu comme notre petite âne Ali Boron. Ils n'ont pas su apprécier la nourriture que Dieu leur donnait dans le désert. Ils ont regretté les bons plats de l'Égypte, mais bien sûr, ils oubliaient qu'ils étaient alors esclaves. Et je lis dans le livre des Nombres, ils recommencèrent à se plaindre en disant, Ah, si seulement nous avions de la viande à manger, ah, nos repas en Égypte, quel souvenir! Le poisson gratuit, les concombres, les melons, les poireaux, les oignons et l'ail. Ici, rien de tout cela dans ce désert. Nous dépérissons à force de ne voir que de la manne, la nourriture que Dieu leur donnait dans le désert. Dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 10, l'apôtre Paul rappelle justement cette histoire du peuple d'Israël après la sortie d'Égypte, lors de la première alliance dans le désert, et en particulier tous ces événements du Sinaï et tout ce qui a suivi. Et il cite tout cela pour avertir le peuple de Dieu, mais cette fois dans le cadre de la nouvelle alliance, c'est-à-dire les hommes et les femmes, juifs et non-juifs, qui ont reconnu en Jésus le Messie d'Israël et de toutes les nations. Alors comme l'âne à Liboron, comme le peuple d'Israël dans le désert et plus tard dans le pays promis, et comme j'allais dire tous les chrétiens du premier siècle à Corinthe et de tous les temps et en tout lieu, et nous en sommes, il peut en effet nous arriver à nous aussi d'avoir de mauvais désirs. Nous nous envions de beaux chardons, qui sont pourtant des plantes qui causent bien des problèmes aux agriculteurs lorsqu'elles envahissent un champ ou un pâturage. Le cirs des champs, c'est une variété de chardon. Le cirs des champs, par exemple, fait partie de ce qu'on appelle les adventistes, c'est-à-dire des plants qui viennent de l'extérieur, qui ne font pas partie de la culture. Les plus souvent, en tout cas, trouvés dans les cultures, et il se répand très rapidement dans les champs grâce à ces nombreuses graines. Vous savez, c'est ces petites graines en aigrette qui volent, on en voit parfois, hein, qui volettent un peu à droite et à gauche, et puis aussi par son système racinaire. Il est très difficile de s'en débarrasser et il peut entraîner une perte de rendement. Alors j'ai puisé dans Wikipédia, j'aurais pu puiser ailleurs, mais enfin j'ai trouvé l'information juste. Comme c'était un peu ma spécialité, j'ai pu vérifier. Mais pour réhabiliter un petit peu le chardon, je ne sais pas s'il y a parmi vous des Écossais, alors je me méfie toujours un peu, hein, parce que ça peut arriver. En tout cas, je rappelle ici que le chardon des ânes, justement, est l'emblème de l'Écosse. Vous voyez qu'il n'y a pas que du mauvais hein, dans le chardon. Bon, voilà. Bref, convoiter ces chardons pleins d'épines, ce n'est pas une bonne chose pour nous. On peut le comprendre pour un âne, mais pas pour nous. Même si un chardonneret élégant, alors le chardonneret élégant, on le voit ici, hein, c'est son nom officiel, élégant. Et là, je l'ai mis aussi un petit peu plus tard, mis sur un autre chardon qu'on appelle la cardère. Ils en servaient autrefois pour carder la laine. Hein, et le mot chardon vient aussi de là. Même si donc un beau chardonneret élégant, coloré, séduisant nous dit le contraire. Vous savez, c'est un peu comme le diable dont il est dit qu'il peut se déguiser, c'est Jésus qui le précise, en ange de lumière. Et Jésus le rappelle, il est menteur dès le commencement. Dès le commencement. Alors, mieux vaut ne pas l'écouter. D'autant que nous risquons, comme dans l'histoire d'Aliboron et comme dans le récit de la sortie d'Égypte, de perdre un temps précieux et de souffrir en passant sous les barbelés pour finalement revenir au point de départ. Ça ne sert pas à grand-chose de faire tout ce trajet et d'écouter la mauvaise voix. Alors, une petite précision sur ce nom d'Aliboron. Apparemment, ça vient d'un savant arabe du Moyen-Âge, mais ce nom ou prénom a été déformé et il a fini par s'appliquer à ceux qui se prétendent savants, mais qui ne le sont pas, à ceux qui se prétendent capables de tout. Vous savez, il y a toujours des bonimenteurs, comme on dit. « Oui, je suis capable de faire ci, de faire ça, ou j'ai les instruments pour le faire », alors qu'ils sont en réalité ignorants et incapables, maladroits. Un aliboron, c'est quelqu'un de stupide, de prétentieux, et c'est pour ça qu'on dit « c'est un âne », c'est un âne, voilà. Alors, pour éviter de nous conduire comme des ânes, ça peut nous arriver malheureusement, il nous faut écouter avec attention les avertissements de l'apôtre Paul, ces avertissements basés sur l'histoire et l'exemple de son peuple lors de la sortie d'Égypte. Tout d'abord, l'apôtre Paul nous donne un commentaire très précieux, très intéressant de la traversée du désert où le peuple de Moïse était conduit par l'Esprit de Dieu. Il le souligne. Je lis dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 10. Ils ont tous été sous la protection de la nuée. Ils sont tous passés à travers la mer Rouge. Dans la nuée et dans la mer, ils ont tous été baptisés en communion avec Moïse, comme une image du baptême. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle et ils ont tous bu la même boisson spirituelle. Ils buvaient en effet au rocher spirituel qui les accompagnait, et ce rocher était le Christ. Pourtant, la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu, et c'est pourquoi ils tombèrent morts dans le désert. Ces événements nous servent de modèle pour que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Dans ce texte, nous apprenons donc que Jésus, le Christ, le Messie, je rappelle, ce sont deux mots tout à fait synonymes, absolument équivalents. Il y en a un qui vient du grec, l'autre de l'hébreu, mais peu importe. Le Christ, le Messie, accompagnait son peuple dans le désert. Jésus est en effet ce rocher qui est une source d'eau vive, il le dit lui-même. Il est aussi le véritable pain venu du ciel. Et Jésus précise que cette eau et ce pain produits par l'Esprit de Dieu, spirituel donc, permettent de vivre éternellement. Voilà la particularité de ce pain et de cette eau qui sont en fait en Jésus, en sa personne. Ensuite, toujours en référence à l'histoire de son peuple, l'apôtre Paul met en garde les chrétiens juifs et non-juifs de Corinthe, et j'allais dire encore une fois de tous les temps et de tous les lieux, il les met en garde contre la tentation de l'idolâtrie, c'est-à-dire de se soumettre à d'autres dieux des faux dieux fabriqués, inventés de toutes pièces par les hommes et les femmes qui les entraînent à se détourner du seul vrai Dieu. Et on peut trouver de nombreux dieux dans ce monde, ou faire de nombreuses choses des dieux qui finissent par nous rendre esclaves d'habitudes, d'asservissements divers et variés. Et je ne fais pas là de liste, mais vous les avez certainement en tête. Alors c'est comme pour Israël dans le désert. La débauche sexuelle est la suite logique de cette idolâtrie païenne. C'est ce que raconte le livre de l'Exode. Mais aussi le refus de se contenter de la nourriture et de l'eau que Dieu donne à son peuple pour vivre. Et le peuple d'Israël finit par se plaindre et par mettre ainsi, dit Paul, le Christ, le Messie, à l'épreuve. Ils finissent par tenter le Seigneur. C'est ce que rappelle aussi le psaume 78. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur en demandant de la nourriture selon leur désir, et non pas, bien sûr, selon le désir de Dieu. Enfin, souligne l'apôtre Paul, ce comportement, influencé par le monde païen, peut avoir de graves conséquences pour le peuple de Dieu de la nouvelle alliance, c'est-à-dire nous autres, les chrétiens, ceux qui vivent dans leur foi en Jésus-Christ. Aujourd'hui, les tentations restent les mêmes. Nous ne sommes pas à l'abri de ces tentations, de ces péchés contre Dieu, lors de notre traversée du désert, dans ce monde. Nous sommes très influencés, beaucoup plus qu'on ne le croit, on n'en est pas toujours conscient, nous sommes très influencés par la culture ambiante, la culture, j'allais dire, païenne de notre société. Cela nous arrive lorsque nous nous éloignons de notre rocher et que nous ne faisons plus confiance à Dieu notre bon Père, dans toutes les circonstances. Les bonnes circonstances, il y en a dans la vie, beaucoup. Heureusement, il faut remercier le Seigneur pour tout ce que nous vivons de bon, de beau, de bien, mais aussi les moins bonnes circonstances et parfois les plus tragiques, les pires, comme ce fut le cas pour le peuple de Dieu dans le désert. Sur le plan humain, vous le savez tous, nous en avons tous fait l'expérience un jour ou un autre, la vie n'est pas toujours facile. Elle n'est pas non plus toujours facile sur le plan spirituel. Nous pouvons subir toutes sortes d'épreuves, de tentations. Alors en grec, c'est le même mot, épreuve ou tentation. Et c'est vrai que dans l'épreuve, on peut être tenté d'en vouloir à Dieu, de renier Dieu, de négliger notre foi, justement, et de nous écarter du rocher de Jésus lui-même. Et dans toute tentation, il y a aussi une forme d'épreuve, comme si on était mis à l'épreuve, et le Seigneur le permet à plusieurs reprises. Nous vivons toutes sortes d'épreuves, toutes sortes de souffrances, qu'elles soient morales, qu'elles soient physiques, et tout cela, bien sûr, dû à la maladie, à un accident, à toutes sortes, encore une fois, de circonstances. Alors, en général, et c'est ce que souligne l'apôtre Paul, nous les subissons simplement parce que nous vivons dans un monde marqué par la réalité du mal, depuis la chute, depuis la première rébellion contre Dieu. Et les effets de cette rébellion, de ce mal, se font sentir sur tous les êtres humains dans le monde. Et nous en subissons, nous aussi, les conséquences. J'ajoute quand même que, malgré tout, on peut confirmer, affirmer que nous sommes gardés dans ce monde. Rappelez-vous le psaume 23, le bon berger qui nous conduit justement dans des bons prés d'herbes fraîches. Rappelez-vous le psaume 121, le Seigneur qui nous conduit dès le départ et jusqu'à l'arrivée, on l'a mentionné là tout à l'heure, le Seigneur fidèle. Et je crois que nous sommes vraiment gardés, ne serait-ce que parce que quand on se conduit selon la volonté du Seigneur, eh bien on évite bien, bien des pièges, bien des problèmes. Et ça, c'est déjà une façon d'être gardé. Mais il est vrai que nous subissons, nous aussi, les choses, les effets, je l'ai dit, de ce monde marqué par la réalité du mal. L'apôtre Paul ajoute cependant que nous sommes parfois directement responsables de ce qui nous arrive, et éventuellement en mal, bien justement lorsque nous cédons à la tentation, lorsque nous faisons de mauvais choix, et cela arrive malheureusement. lorsque nous prenons de mauvaises décisions, lorsque nous nous laissons tromper par nos désirs les plus obscurs. On n'a pas toujours besoin d'un petit chardonneret. L'apôtre Jacques dit que ce sont nos mauvais désirs qui sont à l'origine de la tentation, et puis après ça s'enchaîne jusqu'à ce qu'on appelle le péché, c'est-à-dire quand on cède à la tentation, et cela nous arrive. Mais c'est vrai que c'est d'autant plus le cas si un chardonneret élégant, et on voit bien qui se cache derrière lui, ce chardonneret qui est en fait notre ennemi implacable, nous fait miroiter de beaux chardons pour nous inciter à franchir les limites, les barrières. Vous savez, ça arrive sans cesse. Alors nous souffrons. Oui, nous souffrons d'être passés, d'avoir osé passer sous les barbelés. On sait bien que ça va faire mal. Et malheureusement, il arrive qu'on cède à la tentation. Nous ne trouvons pas alors vraiment ce que nous voulions. Nous avons toujours faim et soif et nous finissons par revenir au point de départ. Alors la pire erreur serait de ne pas le reconnaître, de ne pas avouer simplement au Seigneur que nous n'avons pas voulu du pain et de l'eau qu'il nous offrait pour notre bien, que nous ne lui avons pas fait confiance. Confiance, c'est ce que le Seigneur reproche en premier lieu à son peuple. Dans le livre du Deutéronome, le Seigneur ton Dieu t'a porté comme un homme porte son enfant tout au long du voyage, mais vous n'avez pas fait confiance au Seigneur votre Dieu. C'est d'ailleurs même le reproche que Dieu adresse à Moïse, quand vous vous souvenez, il a frappé une première fois le rocher pour avoir de l'eau, et la seconde fois, Dieu lui dit « Non, maintenant tu ne frappes pas le rocher, tu lui parles. » Et Moïse, excédé par le peuple qui n'arrête pas de maugréer dans son dos, finit par frapper une deuxième fois le rocher, et Dieu lui dit « Tu ne m'as pas fait confiance, alors tu n'entreras pas dans le pays. Tu le verras de loin, mais tu n'entreras pas, tu ne m'as pas fait confiance. » On comprend mieux pourquoi Paul parle de Jésus comme le rocher qui accompagnait son peuple dans le désert. Jésus a été frappé une première fois, crucifié, mais il reviendra sur l'appel de son épouse, de l'Église, une parole. Jésus ne reviendra pas pour être frappé à nouveau. Je pense que c'est un signe important. En tout cas, il est vrai que nous n'avons pas toujours su nous contenter du bon pré d'herbe verte et de l'ombre des pommiers. Nous avons parfois dédaigné notre rocher, nous nous sommes plaints. Nous avons regretté les bons plats de l'Égypte. Et c'est un peu comme la femme de Lot hein, qui se retourne en disant bah, « Finalement, c'était peut-être pas si mal. Hein. » On peut l'interpréter comme ça. Ben non, allons devant. Il ne s'agit pas de se plaindre, il ne s'agit pas de regretter les bons plats de l'Égypte en oubliant que nous étions esclaves, esclaves d'un mauvais maître. Nous avons préféré manger des graines de chardon. Alors j'ai vu que ça se vendait dans le commerce, des graines de chardon. Mais ça n'est pas une bonne nourriture pour nous, les êtres humains. Nous avons été aveugles au point de boire une eau polluée. Portés par nos mauvais désirs, nous avons écouté la voix d'un autre Dieu, un Dieu menteur, un Dieu mal intentionné. Ou nous avons écouté la voix des hommes et des femmes qui se prenaient pour des dieux, des aliborons stupides et prétentieux. Nous avons si vite fait de franchir les limites de la loi du Seigneur, de sa parole, de son amour. C'est comme cela qu'il faut résumer toute la loi, Jésus le dit, l'apôtre Paul l'écrit. Toute la loi du Seigneur se résume par « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta vie, de tout ton être, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Voilà, si l'on peut dire, les limites de la loi de Dieu, c'est les limites pour ainsi dire infinies, les limites de la loi, ce sont aussi les limites de l'amour de Dieu. Et nous nous écartons de cette loi d'amour, nous nous écartons de notre bon berger qui veut nous conduire dans les lieux les meilleurs, les plus paisibles. Nous n'écoutons pas la parole de Dieu, nous fermons nos oreilles à l'Esprit Saint. Pourtant, l'Esprit Saint nous conseille. Il nous rend sage, justement, par cette parole. Il nous donne la force, si on la lui demande, et parfois même lorsqu'on la demande pas vraiment, mais il nous donne tout de même la force de traverser les lieux les plus redoutables et de ne pas nous endormir dans les lieux les plus confortables. Parce que c'est aussi une tentation. Nous vivons dans des pays très confortables. C'est un peu comme le roi David, quand il s'est arrêté un peu de guerroyer à droite et à gauche, il était dans son palais, bien installé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu Bathsheba, il a fait tuer son mari, etc. Vous connaissez toute l'histoire. Tout a déraillé. Voilà, dans les lieux confortables, il faut aussi rester vigilant et compter sur la grâce, la force du Seigneur. Mais la promesse du Seigneur de nous conduire jusqu'au bout tient toujours. C'est ce que l'apôtre Paul écrit dans ce même texte de la lettre aux Corinthiens. Nos épreuves, nos tentations sont semblables à celles qui se présentent à tous les êtres humains, pas différents des autres. Mais Dieu est fidèle à ses promesses. Il ne permettra pas que nous soyons éprouvés ou tentés au-delà de nos forces. Mais au moment où surviendra l'épreuve, il nous donnera la force de la supporter et ainsi le moyen d'en sortir. C'est pas toujours évident. Quand on lit cela, on se dit, et surtout si on est dans l'épreuve, on se dit, il est gentil l'apôtre Paul, mais c'est dur. Et pourtant, pensez à ce que Paul a vécu. Vous vous souvenez de toute cette liste qu'il donne dans une de ses lettres? J'ai été lapidé plusieurs fois, j'ai fait naufrage, j'ai eu tous les ennuis du monde. Et à la fin, il dit, mais le Seigneur m'a délivré de toutes ces épreuves. Alors, il pouvait témoigner de cela, mais on sait bien que ça n'est pas toujours simple. Et on sait bien aussi que dans la tentation ou l'épreuve, il peut arriver que nous faiblissions, que nous soyons tentés et que nous franchissions les mauvaises barrières. Alors, il faut, dans ce cas, revenir au Seigneur et ne pas attendre. C'est ce que précise l'auteur de la lettre aux Hébreux. Le Seigneur Jésus est notre grand prêtre, bienveillant et fidèle. Il peut secourir ceux qui sont tentés ou éprouvés, car il a été lui-même tenté, éprouvé, comme nous, dans tous les domaines, mais sans jamais pécher, sans jamais céder à la tentation. Et c'est pour cette raison que Jésus est notre rocher, toujours solide, toujours stable. Je pense toujours au rocher de Cassis, vous voyez, c'est cette avancée. On sent que c'est solide, hein, on peut se reposer dessus. Ça tient bon. Le Seigneur, eh bien, est justement notre rocher, solide, stable. Il nous accompagne. Il nous offre son esprit. Il nous offre l'eau vive de l'esprit. Il nous offre le pain de vie qu'il est lui-même pour rafraîchir, pour nourrir nos cœurs. Il nous donne la force de vivre dans toutes les circonstances. Il nous donne la force d'affronter la souffrance et même la mort. On a chanté tout à l'heure en Jésus seul. Je ne sais pas si vous pensez bien à toutes les paroles de ce chant, mais elles donnent un peu le vertige, hein, jusqu'au bout et devant la mort. Et oui, on le chante, ça a l'air facile, mais peut-être pas si simple, là encore, hein, pas si facile. En tout cas, c'est vrai, le Seigneur nous donne la force d'affronter la souffrance et la mort avec confiance. On ne comprend pas toujours pourquoi, mais le Seigneur nous demande d'avoir foi, d'avoir confiance en lui. Et puis, il nous permet aussi de goûter dès à présent les bons fruits, les premiers fruits du pays promis, et en particulier les fruits spirituels, la vie, la joie, la paix, l'amour, la douceur, la patience. Oh là là, ce fruit hein, dont on manque tant. Ne soyons donc pas des aliborons. Ne soyons pas des ânes têtus, stupides, prétentieux et jamais contents de ce qu'ils ont. Soyons plutôt comme cet âne qui a porté Jésus sur le mont des Oliviers, des ânes toujours prêts à aimer notre bon maître, à le servir, à le porter en quelque sorte, mais aussi et surtout à l'écouter et à le suivre. Et puis soyons comme ces ânes de Provence. Ouais, on revient toujours un peu à la Provence hein, quand même. Soyons comme ces ânes de Provence. Vous savez, la particularité des ânes de Provence, c'est qu'ils ont une belle croix sur le dos. Alors soyons comme ces ânes de Provence, mais la croix, on ne l'aura pas seulement sur le dos, mais surtout dans le cœur. Hein, comme le Seigneur le dit, si vous voulez me suivre, eh bien, chargez-vous de votre croix. Mais c'est bien sûr un sentiment qu'on éprouve à l'intérieur de nous-mêmes, comme un bon fruit de notre amour, de notre service. La croix, c'est ça aussi un petit peu, hein, c'est de servir le Seigneur et notre prochain pour les aimer, pour aimer le Seigneur, pour aimer tous ceux qui nous entourent. Alors pour terminer, j'ai quand même mis la photo du même âne, mais vous voyez, il a une bonne tête. Hein. Et oui, il y a quand même des bonnes choses, c'est pas toujours des animaux. Et puis, Il y en a même qui savent vivre ensemble et se servir l'un l'autre. Ça peut être une bonne chose. Voilà. Eh bien, je vous invite à prier ensemble. Seigneur, merci pour ta parole qui nous instruit, qui nous avertit, qui nous enseigne, nous conduit, nous rassure, nous garde d'une certaine manière en nous donnant une certaine sagesse. Merci pour ton esprit qui fait vivre ces paroles en nous. Et nous te le demandons, Seigneur, nous réclamons, nous te supplions, Seigneur, de nous accorder cette eau vive, de nous accorder encore ce pain vivant que tu es toi-même pour nous, pour nos cœurs. Et nous te prions, Seigneur, de nous garder dans le bon chemin. Pardon, pardon, Seigneur, lorsque nous avons malgré tout écouté les mauvaises voix, d'où qu'elles viennent. Pardon, Seigneur, d'avoir passé parfois sous la barrière, quitte à nous blesser, souffrir. Pardon, Seigneur, de ne pas avoir toujours su choisir les bons aliments et surtout les bonnes choses que tu nous offres dans ta grâce. Mais Seigneur, là où nous sommes, nous voulons continuer de garder les yeux fixés sur toi. Tu es notre rocher qui traverse les siècles. Tu es cet appui stable, fidèle, sûr. Alors Seigneur, nous voulons nous confier en toi. Nous voulons placer comme tout à nouveau toute notre confiance en toi parce que tu en es digne. Tu n'es pas un Dieu insensible à notre situation. Tu n'es pas un Dieu insensible à notre souffrance. Tu n'es pas non plus un Dieu insensible à tout ce que nous vivons de bon et de bien, d'heureux. Alors Seigneur, c'est dans toute situation que nous voulons garder les yeux fixés sur toi. Merci pour les bonnes choses, merci pour les bons moments de la vie, merci pour tout cela et garde-nous d'oublier de les partager avec ceux qui en manquent, ceux qui souffrent, ceux qui sont démunis. Et Seigneur, dans la souffrance, nous te prions d'apaiser la souffrance de nos frères et sœurs ou nos souffrances. Nous te prions, Seigneur, de nous aider à garder confiance malgré tout. Et nous te prions pour tous ceux qui souffrent ici dans cette communauté, dans nos églises, mais aussi dans ce monde. Seigneur, nous te les apportons, nous te prions. Tout spécialement pour nos frères et sœurs, ceux qui sont en prison, ceux qui souffrent à cause de leur foi. Nous te demandons ta bénédiction, ta grâce sur eux. Et nous te prions pour ce monde, nous te prions pour ces hommes et ces femmes qui souffrent dans la guerre, dans la maladie, les épidémies, te prions, répands ta grâce, Seigneur, malgré tout, accorde-leur la grâce de se tourner vers toi, de trouver en toi leur salut. Et nous te le demandons, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Il n'y a pas de Sainte Cène de prévu ce matin. Je me permets juste de relire deux versets. Oui, alors je les avais préparés un peu pour la Sainte Cène, mais peu importe. Hein. Je suis obligé de me tourner parce que je ne pense pas les avoir sous les yeux. Je rappelle quand même ces paroles de Jésus, elles me semblent importantes. Je suis le pain de vie. Vos ancêtres ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Mais le pain qui descend des cieux est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Je suis le pain vivant descendu des cieux. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours. Et un peu plus loin, si quelqu'un a soif, eh bien qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, c'est cela, hein, boire l'eau du Seigneur, c'est croire en lui, des fleuves d'eau vive couleront de lui. C'est-à-dire, il sera à même de redonner, de partager cette bonne eau vive du Seigneur. Voilà. Merci.